Arthur Conan Doyle, l'île hantée. Ce n'était pas chose facile que d'amener le Gardrock jusqu'à l'île, car le fleuve avait entraîné de telles quantités de vases que ses rives se prolongeaient maintenant plusieurs milles dans l'Atlantique. À peine pouvait-on voir la côte quand la première écume blanche qui ourlait les brisants nous avertit du danger. À partir de ce moment, nous fîmes route avec maintes précautions sous la grande voile et le foc, en ayant soin de garder soigneusement les brisants par bâbord, comme cela était indiqué par la carte. Plus d'une fois, notre quille toucha le sable. Le yacht tirait alors un peu moins de 6 pieds, mais nous eûmes toujours assez de place et assez de chance pour passer. Enfin, la profondeur de l'eau augmenta rapidement, mais on nous avait envoyé un canot de la forteresse et le pilote Crewboy, puis nous amener à moins de 200 mètres de l'île. Là, nous jetâmes l'ancre, car le nègre nous indiquait par geste qu'il ne fallait point espérer nous rapprocher davantage. Le bleu de la mer avait fait place au brun foncé de la rivière et, bien que nous fussions à l'abri de l'île, le courant ronflait et bouillonnait autour de nos bonsoirs. Nous devions être en pleine crue car l'eau couvrait les racines des palmiers et partout, sur sa surface boueuse et grasse, nous apercevions des morceaux de bois et des débris de toutes sortes qui avaient été entraînés par l'inondation. Quand je me fus assuré moi-même que nous étions mouillés en toute tranquillité sur nos amarres, je pensais qu'il valait mieux faire de l'eau sans plus attendre, car l'endroit où nous nous trouvions me paraissait exhaler la fièvre. La lourde rivière, les rives étincelantes et vaseuses, le vert éclatant et empoisonné de la jungle, l'humide vapeur de l'air, tout cela était autant d'avertissements du danger pour qui savait les lire. J'envoyai donc la chaloupe à terre avec 2 barriques qui devaient nous suffire jusqu'à ce que nous eussions atteint Saint-Paul-de-Loanda. Pour moi, je pris le you-you et je ramai jusqu'à l'île, car j'avais remarqué, flottant au-dessus des palmiers, le drapeau anglais qui marquait l'emplacement du comptoir de la maison Hermitage & Wilson. Quand j'eus contourné le bouquet d'arbres, je pus apercevoir le comptoir, un long bâtiment, long, bas et blanchi à la chaux, avec une véranda profonde sur sa façade et une énorme pile de barils d'huile de palme entassée sur chacun de ses côtés. Une rangée de bateaux à brisants et de canots garnissait la baie, et une petite estacade s'avançait dans la rivière. 2 hommes, vêtus de blanc, avec des ceintures rouges autour de la taille, m'attendaient au bout de l'estuaire pour me recevoir. L'un d'eux était un grand et vigoureux gaillard à barbe grisonnante. L'autre, long et mince, avec une figure pâle et souffrante, que cachait à demi un vaste chapeau en forme de champignon. « Enchanté de vous voir !» me dit cordialement ce dernier. « Je m'appelle Walker et je suis le représentant de l'Armitage et Wilson. Laissez-moi vous présenter le docteur Severall de la même compagnie. Il est bien rare que nous apercevions un yacht particulier dans ces parages. »« C'est le Gamecock, répondis-je. J'en suis le propriétaire et le capitaine. Je m'appelle Meldrum. Vous faites de l'exploration ?» me demanda-t-il. « Oui, je suis un lépidoptériste, un chasseur de papillons. J'ai descendu toute la côte occidentale, depuis le Sénégal. »« Et vous avez fait bonne chasse ?» continua le docteur en tournant vers moi lentement ses yeux à prunelles jaunes. « Oh, j'ai rempli 40 boîtes. Nous avons abordé ici pour faire de l'eau et aussi pour voir ce que vous avez dans ma parterie. » Pendant ses présentations et ses explications, mes 2 crewboys avaient amarré le canot. Je descendis donc l'estacade, ayant de chaque côté un de mes nouveaux compagnons, tous 2 m'accablant de questions, car depuis des mois, ils n'avaient pas vu un blanc. Ce que nous faisons, me dit le docteur, quand j'eus commencé à questionner à mon tour. Oh, nos affaires nous occupent assez, et dans nos moments de loisirs, nous parlons politique. Oui, par une grâce spéciale de la Providence, Sevrard est un fief radical, tandis que moi je suis un bon et fidèle unioniste. Si bien que nous parlons Home Rule pendant 2 bonnes heures tous les soirs. Et nous buvons des cocktails au quinine, dit le docteur. Nous sommes tous les deux assez salés à présent, car notre température normale était d'environ 109 degrés l'année dernière. Comme conseiller impartial, je ne saurais vous recommander de séjourner longtemps ici, à moins que vous collectionniez les bacilles comme les papillons. L'embouchure de Logowai ne fera jamais ses frais comme sanatorium. Rien de plus beau que la manière dont ces pionniers avancés de la civilisation tirent une gaieté étrange de leur situation désolée et envisagent, non seulement hardiment, mais gaiement, les avantages qu'on peut retirer de leur vie. Partout, depuis Sierra Leone, j'ai retrouvé les mêmes marécages empestés, les mêmes communautés isolées, terrassées par la fièvre et les mêmes plaisanteries douloureuses. Il y a pour moi quelque chose qui approche de la divinité dans cette puissance qu'a l'homme de s'élever au-dessus de sa situation et d'employer son esprit à railler les misères de son corps. « Oh, le dîner sera prêt dans une demi-heure environ, capitaine Meldrum, » me dit le docteur. « Walker est allé s'en occuper. C'est lui qui est l'intendant cette semaine. » Nous pouvons pendant ce temps faire un tour et je vous montrerai les points de vue de l'île. Le soleil était déjà descendu au-dessous de la ligne des palmiers et la grande arche du ciel au-dessus de nos têtes semblait l'intérieur d'un immense coquillage brillant de pourpre légère et de délicates irisations. Personne de ceux qui n'ont pas vécu dans ce pays où le poids et la chaleur d'une serviette sont intolérables aux genoux ne saurait imaginer le bien-être béni qu'apporte avec elle la fraîcheur du soir. Dans cette atmosphère plus douce et plus pure, nous marchions, le docteur et moi, autour de la petite île. Il me montrait les magasins et m'expliquait la routine du travail. Il y a un peu de romans dans ce pays, me dit-il en réponse à quelques remarques que j'avais faites sur la tristesse de leur vie. Nous sommes ici comme sur le bord du grand inconnu. De ce côté, poursuivit-il en me désignant le nord-est, du chahut a pénétré et y a trouvé la demeure du gorille. Ceci est le Gabon, le pays des grands singes. Et dans cette direction, et il me montrait le sud-est, personne n'a jamais été très loin. Le pays qu'arrose cette rivière est pratiquement inconnu des Européens. Chaque morceau de bois que ce courant fait passer devant nous vient d'une région qui n'est pas encore découverte. J'ai souvent souhaité d'être meilleur botaniste en voyant les singulières orchidées et les plantes à l'aspect étrange qui sont venues s'échouer dans l'est de l'île. L'endroit que m'indiquait le docteur était une baie noirâtre en pente douce, abondamment baignée par le courant de fleuve. À chaque extrémité, une pointe se recourbait comme un petit brise-lames naturel, ce qui laissait entre elles une baie tranquille. Celle-ci était pleine d'une végétation flottante et au milieu, on apercevait un tronc gigantesque dont le flot venait lécher le dos noirâtre. « Tout cela vient du haut pays, » me dit le docteur. Cela s'arrête dans notre petite baie et, quand survient quelque crue, est entraîné de nouveau et emporté à la mer. « Et quel est cet arbre ?» demandai-je. « Bon, une espèce de teck, j'imagine, mais qui paraît singulièrement vermoulu, en jugé par son aspect. Nous avons ici toutes sortes d'énormes arbres de bois dur qui passent en flottant, sans parler des palmiers. » « Allez, rentrons maintenant, voulez-vous ? Il me conduisit alors dans un long bâtiment contenant éparpillés des douves de barils et des cercles de fer en quantité considérable. « C'est ici notre tonnellerie, » dit-il. « On nous envoie les douves en bottes et nous les montons nous-mêmes. »« Maintenant, vous ne voyez rien de particulièrement sinistre dans ce bâtiment, n'est-ce pas ?»« Je ne vois rien d'alarmant, » répondis-je. « Bien, il y a cependant quelque chose qui sort de l'ordinaire, » ajouta-t-il. Vous voyez ce lit? Eh bien, j'ai l'intention d'y dormir cette nuit. Je ne voudrais pas me vanter, mais je crois qu'il y a là de quoi mettre les nerfs à l'épreuve. Pourquoi? Oh! C'est qu'il s'y est passé des choses étranges. Vous parliez de la monotonie de notre vie, mais je vous assure qu'elle est parfois tout aussi excitante que nous pouvons le désirer. Allez, vous feriez mieux de revenir maintenant à la maison, car après le coucher du soleil, le brouillard de fièvre commence à monter des marais. Tenez, vous pouvez le voir venir à travers la rivière. Je regardais et je vis les longs tentacules de la vapeur blanche sortant de l'épais sous-bois vert et se hâtant vers nous par-dessus la large surface unie de la rivière noire. Au même moment, l'air devint tout à coup humide et froid. « Ah, voici le gong du dîner, » dit le docteur. « Si cela vous intéresse, je vous en reparlerai plus tard. » Cela m'intéressait beaucoup, car il y avait dans l'attitude du docteur, debout au milieu de la tonnellerie vide, quelque chose de sérieux et d'inquiet qui frappait fortement mon imagination. C'était un homme vigoureux, hardi et plein de cœur que ce docteur. Cependant, j'avais découvert une curieuse expression dans ses yeux quand il venait se fixer sur moi, expression que je ne saurais décrire comme causée par la peur, mais plutôt comme celle d'un homme qui se tient en alerte et sur ses gardes. « À propos, lui dis-je en revenant à la maison, vous m'avez montré les huttes de beaucoup de vos travailleurs noirs, mais ceux-mêmes, je n'en ai pas encore vu un seul. » « Oh, il couche à bord du ponton, qui est là-bas, » me dit le docteur en m'indiquant une dérive. « Vraiment ? J'aurais pensé qu'en ce cas, il n'avait pas besoin de hutte. »« Oh, il se servait des huttes jusqu'à ces tout derniers temps. Nous avons mis sur le ponton pour attendre qu'il se rassure un peu. »« J'étais à moitié fou de terreur. » Si bien que nous avons laissé aller et personne ne bouge plus dans l'île que Walker et moi. Qu'est-ce donc qui les avait effrayés? Demandai-je. Cela nous ramène à la même histoire. Je suppose que Walker ne fera pas d'opposition à ce que vous soyez mis au courant. Je ne vois pas pourquoi nous garderions le secret là-dessus, bien que certainement ce soit une assez triste affaire. Il ne fit plus à cela aucune allusion tant que dura l'excellent dîner qui avait été préparé en mon honneur. Je compris qu'aussitôt que le petit humier blanc du Grahamcock avait apparu, doublant le Cap Lopez, ces excellents garçons avaient commencé à préparer leur pepper pot, qui est le ragoût épicé particulier à la côte occidentale. Ce qu'ils avaient mis à bouillir, leurs inams et leurs topinambours. Nous nous assîmes devant le meilleur dîner indigène qu'on peut imaginer, servi par un domestique fort correct de Sierra Leone. J'étais en train précisément de me faire à moi-même cette remarque, que celui-là au moins n'avait pas pris part à la fuite générale, quand, ayant placé sur la table le dessert et le vin, il porta la main à son turban. « Ai-je encore quelque chose à faire, Massa Walter ?» demanda-t-il. « Non, tout va bien, Moussa, » répondit mon hôte. « Je me sens pas très bien ce soir. Cependant, je préférerais beaucoup que tu restasses dans l'île. » Je vis alors, sur la face basanée de l'Africain, la lutte qui se livrait entre sa terreur et son devoir. Sa peau avait pris cette rougeur livide qui tient lieu au nègre de pâleur, et il jetait autour de lui des regards furtifs. « Non, non, Master Walter !» s'écria-t-il à la fin. « Vous feriez mieux de venir au ponton avec moi, monsieur. Je vous soignerai bien mieux sur le ponton. »« Mais c'est impossible, Moussa. Les Blancs ne désertent pas les postes où ils sont placés. » De nouveau, je vis l'ardente lutte se livrer sur la physionomie du nègre, et de nouveau, cette erreur l'emportèrent. « C'est inutile, Massa Walker, » répéta-t-il. « Pardonnez-moi, je ne puis pas. Si ça avait été hier ou demain, mais c'est la troisième nuit, monsieur, et c'est plus que j'en puis supporter. » Walter haussa les épaules. « Soit, allez, va-t'en, » dit-il. « Quand le bateau passe, reviendra, tu retourneras à Sierra Leone. » car je ne veux point de domestiques qui m'abandonnent au moment où j'ai le plus besoin d'eux. Je suppose que tout cela est mystère pour vous, à moins que le docteur ne vous en ait parlé déjà, capitaine Meldrum. Non, non, j'ai montré la tonnellerie au capitaine Meldrum, mais je ne lui ai point parlé d'autre chose, répondit le docteur Severall. Vous paraissez malade, Walker, ajouta-t-il en regardant son compagnon. C'est une forte attaque qui vous arrive. Oui, j'ai eu des frissons toute la journée, et maintenant ma tête est comme un boulet de canon. J'ai pris 10 grains de quinine, et maintenant mes oreilles sonnent comme un chaudron. Mais il faut que je couche cette nuit dans la tonnellerie. Non, 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 mon vieux camarade, vous allez vous coucher tout de suite, et je suis sûr que Meldrum vous excusera. C'est moi qui dormirai dans la tonnellerie, et je vous promets de vous apporter votre médecine avant déjeuner. Il était évident que Walker venait d'être frappé d'une de ces soudaines et violentes attaques de fièvre qui sont le fléau de la côte occidentale. Ses joues pâles s'étaient empourprées et ses yeux brillaient de fièvre. En s'asseyant, il se mit à murmurer une chanson de cette voix suraiguë que donne le délire. « Allez, venez, venez, nous allons vous mettre au lit, mon vieil ami, » dit le docteur. Et avec mon aide, il conduisit le pauvre garçon jusqu'à sa chambre à coucher. Là, nous le déshabillâmes et après avoir absorbé un vigoureux soporifique, il tomba dans un profond sommeil. « Oh, il en a pour toute la nuit !» dit le docteur, comme nous nous assaisions et remplissions nos verres une fois de plus. « Tantôt c'est mon tour, tantôt c'est le sien, mais heureusement, nous n'avons jusqu'ici jamais été pris ensemble. J'aurais été très contrarié d'être pincé ce soir, car j'ai un mystère à éclaircir. Je vous ai dit que j'avais l'intention de dormir dans la tonnellerie. Oui, vous me l'avez dit. » Mais quand j'ai dit dormir, je voulais dire veiller, car je ne crois pas dormir beaucoup. Nous avons eu ici une panique telle qu'aucun indigène n'y veut rester après le soleil couché. Et il faut que je trouve ce soir quelle peut être la cause de tout cela. Nous avons toujours eu l'habitude de faire coucher un veilleur indigène dans la tonnellerie pour empêcher qu'on ne vole les cercles des tonneaux. Eh bien, il y a 6 jours, l'homme qui y couchait a disparu. Et depuis, nous n'en avons jamais retrouvé trace. C'était certainement quelque chose de singulier, car on n'a pris aucun canot. Et ces eaux sont bien trop infestées de crocodiles pour qu'on se hasarde à les traverser à la nage. Qu'est devenu cet homme, ou comment a-t-il réussi à quitter l'île? C'est pour nous un mystère complet. Walker et moi, nous fûmes simplement surpris. Mais les Noirs s'épouvantèrent, et d'étranges histoires ne tardèrent pas à circuler parmi eux à ce sujet. Mais la véritable panique commença il y a 3 jours, quand le nouveau veilleur de la tonnellerie disparut à son tour. « Et qu'est-il devenu ? » demandai-je. « Eh bien, non seulement nous n'en savons rien. » Mais nous ne pouvons même pas émettre une supposition qui cadre avec les faits. Les nègres jurent qu'il y a dans la tonnellerie un démon à qui il faut un homme toutes les 3 nuits. et ils n'ont plus voulu rester dans l'île, et rien n'a pu les convaincre. Moussa lui-même, qui est très dévoué, a préféré, comme vous l'avez vu, abandonner son maître dans un accès de fièvre que de passer la nuit ici. Si nous devons continuer à diriger ce comptoir, il nous faut rassurer nos nègres. Et je ne vois pas de meilleur moyen d'y arriver que de me mettre moi-même dans la tonnellerie pour cette nuit. Cette nuit-ci, comme vous le voyez, est la troisième. Et je suppose qu'il me faut en passer par là, quoi qu'il puisse arriver. Mais n'avez-vous aucun indice, demandai-je, n'y avait-il eu aucune trace de violence, ni tache de sang, ni empreinte de pas? Rien qui puisse vous donner une idée de l'espèce de danger que vous avez à affronter. Non, absolument rien. L'homme avait disparu, rien de plus. La dernière nuit, c'était le vieil Ali qui était gardien de quai depuis la fondation de la maison. Il était aussi paisible qu'une roche, et rien qu'une surprise n'a pu l'enlever à son travail. « Eh bien, répondis, je ne crois pas que ce que vous disposez à essayer soit l'affaire d'un homme seul. Votre ami est sous l'action du lot d'un homme, et quoi qu'il arrive, il ne saurait vous être d'aucune assistance. Il faut me laisser passer la nuit avec vous dans la tonnellerie. »« Oh, cela est vraiment bien à vous, Meldoum, » répliqua-t-il en secouant chaleureusement ma main par-dessus la table. Je n'aurais jamais osé vous proposer cela, car c'eût été demander beaucoup à un visiteur occasionnel. Mais si réellement vous voulez, mais certainement je veux. Excusez-moi seulement un moment que je hèle le gamecock et que je leur dise qu'ils n'ont pas besoin de m'attendre. Quand nous revînmes de l'extrémité de la petite jetée, nous nous fûmes frappés tous deux de l'apparence de la nuit. Un énorme entassement de nuages d'un bleu noir s'amoncelait du côté de la terre. Le vent chaud, qui en soufflait en courtes bouffées, frappait nos visages comme l'haleine d'une fournaise. Sous l'estacade, la rivière bouillonnait et sifflait, jetant par-dessus le plancher de petits flocons d'écume blanchâtre. « Mille diables !» dit le docteur Sevrol. « Oh, nous allons encore avoir une inondation pour mettre le comble à tous nos ennuis. Cette crue de la rivière signifie qu'il y a eu d'abondantes pluies dans le haut pays. Et quand elle commence, personne ne peut dire où elle s'arrêtera. Nous avons déjà vu l'île presque entièrement submergée. Allons donc nous assurer que Walter a tout ce qu'il faut, après quoi nous nous retirerons dans notre campement. » Le malade était plongé dans un profond sommeil. Nous le laissâmes avec un verre préparé tout près de lui au cas où il se réveillerait avec la soif que donne la fièvre. Puis nous nous dirigeâmes à travers l'obscurité surnaturelle produite par le nuage qui menaçait. La rivière avait déjà monté de façon telle que la petite baie située à l'extrémité de l'île avait par suite sensiblement changé de forme, recouvrant les deux presqu'îles qui la fermaient. L'amoncellement de bois, ayant toujours au milieu le monstrueux tronc d'arbre, montait et descendait dans le remous du courant. « Voilà un service que l'inondation va vous rendre, » me dit le docteur. « Elle va emporter tout ce tas de matière végétale qui s'est accumulé à l'extrémité est de l'île. » Il est descendu l'autre jour avec la dernière crue, et il y restera jusqu'à ce qu'une inondation le balaye dans le grand courant central. Maintenant, voici notre chambre, voici quelques livres, voici ma blague à tabac, et nous allons essayer de passer la nuit de notre mieux. À la lueur de notre maigre lanterne, la grande pièce solitaire semblait lugubre. Exception faite pour les piles de douves et de cercles, elle ne contenait absolument rien que le matelas du docteur qu'on avait mis dans un coin. Nous fîmes deux sièges et une table avec les douves et nous nous apprêtâmes à notre longue veille. Sevrard avait apporté pour moi un revolver et était lui-même muni d'un fusil à deux coups. Nous chargeâmes nos armes et les gardâmes tout amorcées à portée de notre main. Le petit cercle de lumière et les ombres noires qui formaient arche au-dessus de nous étaient si mélancoliques que Sévral retourna à la maison et en revint avec deux bougies. Un des côtés de la tonnellerie était cependant percé de plusieurs fenêtres demeurées ouvertes. Ce n'est qu'en abritant nos bougies derrière des douves que nous pûmes les empêcher de s'éteindre. Le docteur, qui semblait pourtant doué de nerfs d'acier, avait pris un livre. Mais je remarquai qu'à chaque instant, il le laissait tomber sur ses genoux et regardait attentivement autour de lui. Pour ma part, après avoir essayé une ou deux fois de lire, je reconnus qu'il m'était impossible de concentrer mes pensées sur mon livre. Elles s'égaraient sans cesse dans cette grande pièce vide et silencieuse, et dans le sinistre mystère qui l'enveloppait. Je me mettais la cervelle à la torture pour trouver quelque théorie qui me permît d'expliquer la disparition de ces deux hommes. Il ne restait que ce fait brutal qu'ils étaient partis et pas le plus léger indice sur la cause ou les circonstances de ce départ. Et nous attendions toujours tous les deux au même endroit. Nous attendions sans avoir la plus légère idée de ce que nous attendions. J'avais eu raison en disant que ce n'était pas là l'affaire d'un homme seul. Telle qu'elle se présentait, elle me paraissait amplement suffisante. Mais aucune force sur terre n'eût pu me tenir là si je n'avais eu un compagnon. Quelle nuit interminable et fatigante! Au dehors, nous entendions le grondement et le bouillonnement de la grande rivière en même temps que le mugissement du vent qui ne cessait de s'élever. Au-dedans, excepté nos deux respirations, le léger bruit que faisait le docteur en tournant ses pages et parfois le bourdonnement d'un moustique. Il n'y avait qu'un lourd silence. À un moment, mon cœur bondit dans ma poitrine. Le livre de Sévral venait de tomber sur le sol. Et Sévral lui-même avait sauté sur ses pieds, l'œil fixé sur l'une des fenêtres. Avez-vous vu quelque chose, Meldrum? Non, et vous? Moi, j'ai eu un vague sentiment que quelque chose remuait en dehors de la fenêtre. Il saisit son fusil et s'en approcha. Non, dit-il, on ne voit rien. Mais cependant, j'aurais juré avoir vu quelque chose passer lentement devant elle. Oh, une feuille de palmier, peut-être, dis-je, car la violence du vent augmentait de minute en minute. Sans doute, oui, répondit-il, et il reprit son livre. Mais ses yeux continuaient à surveiller la fenêtre de brefs regards soupçonneux. Je demeurais également attentif, mais tout était calme au dehors. Tout à coup, l'orage, en se déchaînant, imprima à nos pensées une direction nouvelle. Un éclair aveuglant fut suivi d'une détonation qui ébranla le bâtiment tout entier. Sans relâche, les éclairs d'un blanc vif se mêlaient au tonnerre qui éclatait au même instant avec le mugissement de nombreuses monstrueuses pièces d'artillerie. Puis ce fut le tour de la pluie des tropiques, craquant et bondissant sur le toit de fer galvanisé de la tonnellerie. La grande pièce vide résonnait comme un tambour. De l'obscurité montait un étrange mélange de bruit, un bouillonnement, un éclaboussement, un tintement, un écoulement, tous les bruits liquides que peut produire la matière, depuis le fouettement et le sifflement de la pluie jusqu'au profond et tranquille mugissement de la rivière. D'heure en heure, ce fracas devint plus bruyant et plus soutenu. Ma parole, dit Sévral, nous sommes menacés de la mer de toutes les inondations cette fois. Enfin, voici le jour qui vient, et c'est une bénédiction. Quoi qu'il en soit, nous en avons fini avec la superstition de la troisième nuit. Une lumière grise se glissait à travers la pièce. Il allait faire jour dans un instant. La pluie avait cessé, mais la rivière, noirâtre, courait en mugissant comme une cataracte. Sa force me fit craindre pour les ancres du Glencroke. Il faut que j'aille à bord, dis-je. Si le bateau chasse sur ses ancres, jamais il ne pourra plus étaler le courant de la rivière. L'île vaut un brise-lame, répondit le docteur. Oh, je puis vous donner une tasse de café, si vous voulez venir jusqu'à la maison. J'étais épuisé et affaibli, si bien que la proposition fut la bienvenue. Nous laissâmes la tonnellerie malfamée, sans avoir la clé de son mystère, et nous pataugeâmes jusqu'à la maison. « Voici la lampe à esprit de vin, me dit Sévérol. Si vous voulez seulement y mettre une allumette, je vais voir comment Walker se trouve ce matin. » Il me quitta. Mais un instant après, il était de retour, le visage effrayant. « Il est mort !» me cria-t-il d'un ton rauque. Ces mots firent passer en moi un frisson d'horreur. Je restais, la lampe à la main, regardant Sévérol. « Oui, répéta-t-il, il est mort, venez voir. » Je le suivis sans prononcer une parole, et ce qui frappa d'abord mon regard en entrant dans la chambre, fut Walker lui-même, étendu mort sur son lit, dans le vêtement de nuit de flanelle grise que je l'avais aidé à mettre la veille au soir. « Mais il n'est pas mort !» m'écriai-je. Le docteur était terriblement agité, ses mains tremblaient comme des feuilles au vent. « Mais il est mort depuis plusieurs heures. »« Mais est-ce la fièvre ?» demandai-je. « La fièvre, mais regardez son pied !» Je regardais et un cri d'horreur jaillit de mes lèvres. L'un des pieds était non pas seulement disloqué, mais retourné complètement dans une contorsion d'une grotesque effrayante. « Grand Dieu !» m'écriai-je, « mais qui a fait cela ?» Sévérol avait appuyé sa tête sur la poitrine du cadavre. « Tâtez-la » murmura-t-il. Je mis ma main à la même place. Il n'y avait aucune résistance. Le corps était absolument souple et mou. C'était comme si on avait pressé une poupée garnie de son. « Mais il n'y a plus de thorax !» me dit Sévérol dans le même murmure d'épouvante. « Il est broyé en miettes !»« Dieu merci !» Il était sous l'action du laudanum. « Voyez, il est mort en dormant. »« Mais qui peut avoir fait cela ?»« Oh, il y en a là plus que j'en puis supporter !» dit le docteur en secouant la tête. « Je ne sais pas si je suis plus lâche que mes voisins, mais ceci me dépasse !» Si vous retournez à bord du Glencroke, venez, lui dis-je. Et nous partîmes. Si nous ne courûmes pas, c'est que chacun de nous désirait garder vis-à-vis l'un de l'autre une ombre de sang-froid. Il y avait danger à s'aventurer dans un léger canot sur la rivière débordée, mais nous ne nous arrêtâmes même pas à y penser. Lui nageant et moi pagayant, nous parvînmes à nous maintenir et nous gagnâmes le pont du yacht. Là, avec 200 mètres d'eau contre nous et l'île maudite, nous nous retrouvâmes des hommes. « Nous reviendrons à terre dans une heure ou deux, dit-il. Pour une année de mes appointements, j'aurais pas voulu que les nègres me vissent comme j'étais encore à l'instant. Oh, j'ai dit au steward de préparer le déjeuner, dis-je. Puis nous retournerons à terre. Mais au nom de Dieu, docteur Sévérol, que pensez-vous de tout cela ? Cela me renverse absolument. J'ai entendu parler de la diablerie des vaudous et j'en ai ri avec les autres. Mais mon pauvre Walker, qu'un garçon honorable, craignant Dieu, un homme du 19e siècle, un Anglais, membre de la Primrose League, s'en aille comme cela, sans un os dans le corps, oh, cela me bouleverse. Je ne dis pas le contraire, mais regardez donc, Meldrum, est-ce que cet homme de votre équipage est ivre ou fou? Qu'est-ce qu'il a? Le vieux Patterson, le plus âgé de mes hommes, aussi tranquille que les pyramides, avait été placé au bossoir avec une gaffe pour écarter les troncs d'arbres emportés à la dérive qui se précipitaient avec le courant. Il se tenait maintenant les genoux pliés, les yeux fixés devant lui, et son index s'agitait furieusement dans l'air. « Mais regardez-le » criait-il, « regardez-le !» Et au même instant, nous le vîmes. Un énorme tronc d'arbre noir descendait la rivière. L'eau venait lécher son dos noir et étincelant, et en avant de lui, à 3 pieds environ en avant, cambré au-dessus comme la guibre d'un navire, se dressait une tête effroyable, lentement ballottée de droite à gauche. Elle était gonflée, terrible, aussi grosse qu'un petit baril de bière, et d'une couleur d'or ternie. Mais le cou qui la supportait était taché de jaune, sombre et de noir. Quand elle passa près du Gamecock, dans le tourbillonnement des eaux, je vis 2 anneaux énormes sortir d'un gigantesque tronc de l'arbre et l'abominable tête s'élever soudainement à 8 ou 10 pieds en l'air, regardant le yacht avec ses yeux couverts de peau. Un instant plus tard, l'arbre avait passé près de nous comme une flèche et disparaissait avec son horrible passager vers l'Atlantique. « Et qu'est-ce que c'était ?» criai-je. « C'est le démon de notre tonnellerie !» dit le docteur Sevrol. Et il était redevenu en un instant l'homme courageux et confiant en lui-même que j'avais vu auparavant. « Oui, c'est le diable qui hantait notre île. C'est le grand python du Gabon. » Je pensais aux histoires que j'avais entendues le long de la côte racontées de ce monstrueux constrictor de l'intérieur, de son appétit périodique et des effroyables effets de sa mortelle étreinte. Alors, tout prit forme dans mon esprit. Il y avait eu une crue 8 jours au plus tôt, et elle avait apporté l'énorme arbre creux avec son hideux occupant. Qui sait de quelle lointaine forêt tropicale il était venu? Il s'était échoué sur la petite baie à l'est de l'île. La tonnellerie était la maison la plus proche. 2 fois, avec le retour de sa faim, il avait emporté le gardien. Et la dernière nuit, il revenait sans doute quand Sevrol avait vu quelque chose se mouvoir le long de la fenêtre. Mais nos lumières lui avaient fait rebrousser chemin. Il avait rampé plus loin et avait broyé le pauvre Walker pendant son sommeil. « Mais pourquoi ne l'a-t-il pas emporté ?» demandai-je. « Bon, le tonnerre et les éclairs ont peut-être effrayé le monstre. »« Ah, voici notre steward, Madrum. Plus tôt nous aurons déjeuné, et plus tôt nous serons de retour à l'île, et mieux cela vaudra. »« Car quelques-uns de nos nègres pourraient penser que nous avons eu peur. »